avoir dans quelques secondes, quelques minutes, on aura le Rav Ethan Fizdon. Alors, on a parlé de Taglit avec Mira, justement. Ethan est dans un groupe Taglit en ce moment. Il était à Yad Vashem ce matin avec son groupe. Donc, j'imagine que Marilyn, c'est pas toi qui l'as eu, peut-être Shlomo ou d'autres intervenants qu'on connaît. Et donc, il arrive à son auberge dans le sud d'Israël. Et j'espère qu'il va pouvoir se connecter. Il m'a annoncé, voilà, je vois qu'il est déjà là. Je vois qu'il est déjà là. Nommé co-hôte. Ethan Fizdon est déjà avec nous. Merci à vous tous. Et donc, on se retrouve dans quelques secondes pour parler avec le Rav Ethan Fizdon de la suite, pour la, avec la suite.
Shalom, shalom. Shalom, shalom.
Journée d'études online, l'Ilmod Tisha B'Av, pour la reconstruction du temple et la protection du Ham Israël. Se retrouve pour les deux dernières phases conférence d'aujourd'hui. On aura dans quelques secondes le Rav Ethan Fizdon et juste après on aura un questionnaire sur le temple, le Beth Amigdash et la journée de Tisha B'Av. Donc ce sera un questionnaire Kavod qui aura lieu juste après l'intervention d'Ethan. Voilà Ethan, on finit. Je ne sais pas si tu as écouté tout ce qui s'est passé, mais tu m'entends, tu me reçois bien là-bas?
Ouais, ouais. Tu m'entends toi? Tu m'entends?
Nous, on a un petit peu de mal. Alors, regarde, est-ce que tu captes bien le Wi-Fi de l'hôtel ou pas?
Je vais trouver un meilleur truc.
Peut-être avec le téléphone, je ne sais pas ce qu'il y a.
Attends deux secondes, dis-moi.
Le téléphone, je pense pas, mais...
On va essayer avec ça. Hop, hop. Dis-moi si c'est mieux. Alors, ok.
Sur YouTube, les différentes interventions, conférences. Voilà. On pourrait également retrouver Marie.
Là, vous m'entendez?
J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Je sais pas ce que tu as changé.
Ok.
J'ai l'impression que c'est un peu mieux.
Ok.
Voilà, je te pose une colle.
Vas-y, colle-moi.
Je ne sais pas si tu as suivi ce qui s'est passé avant. On a eu l'excellente intervention de Marilyn Wapni sur la Shoah. Et je sais que toi, tu es guide. Et en fait, on a Serge qui a réagi un petit peu, puisque lui, il a été enfant caché. Il se trouve avec nous, il est en ligne Serge. Il a beaucoup de mal à parler, à s'exprimer, à raconter à sa famille, à ses enfants, à ses petits-enfants. Et d'un côté, un moment très triste, beaucoup d'émotions. Et toi, tu veux d'un autre côté nous parler de l'amour éternel. Alors voilà, je te laisse prendre la parole en connaissance de ce qui s'est passé avant et du sujet dont tu veux nous parler maintenant. Merci, Ethan.
Tov, oua, oua. Eh bien, les amis, alors très bien, je vais devoir revoir le début de ma copie. Mais c'est un grand honneur, évidemment, de parler à Serge et pas que à Serge, mais de parler à tous les Serges qui nous écoutent. Bah vous savez quoi? On va commencer par ça. On va commencer par ça. Quand on parle de Tisha B'Av, quand on parle des drames qui ont touché le peuple juif, alors j'imagine qu'on a dû parler des premières... Enfin, j'ai pas écouté l'intervention juste avant, mais j'imagine, en voyant le titre, que vous avez dû parler des premiers convois qui sont partis pour Treblinka. Je vais vous dire, Dans ma famille, la Shoah est une question qui n'en est pas une. J'ai une grand-mère qui a été déportée à Auschwitz et j'en ai une autre qui n'était pas enfant cachée dans le sens où elle n'a pas été cachée dans un endroit particulier, mais elle a dû s'enfuir d'endroit en endroit. C'est-à-dire que elle a dû passer toute la guerre à essayer de passer entre les mailles du filet et Baruch Hashem, eh bien, elle a réussi. Et cette grand-mère, d'un côté qui était dans les camps et qui en est revenue, et l'autre qui est toujours avec nous et qui a réussi à échapper à la folie des nazis, leur rapport avec l'amour, bien que s'exprimant différemment, était le même. Et c'est peut-être avec ça que j'ai envie de commencer. Quand on interrogeait ma grand-mère, mamie Sabine, alors pas moi parce qu'elle est partie trop tôt et j'ai pas pu l'interroger comme je le voulais, je n'avais pas l'âge suffisant pour comprendre ses réponses, mais elle nous a laissé un très grand témoignage vidéo, et quand on lui pose la question de l'amour, est-ce qu'on peut continuer à aimer après la Shoah, elle avait cette réponse qui est tellement profonde et tellement pleine d'enseignements, où elle disait « Mais justement, après la Shoah, il faut aimer. Si avant la Shoah, on aimait, alors on aimait comme tout le monde. Après la Shoah, on aime pour bâtir quelque chose. » Alors vous allez me dire « Avant aussi, mais on ne se rendait pas compte à quel point c'était important de construire. » Aujourd'hui, la reconstruction de l'après-Shoah, eh bien, c'est l'apanage de nos générations et l'amour devient d'autant plus important. C'est ce qui m'amène à mon autre grand-mère. Après vous avoir parlé de mamie Sabine Zatzal, je vais vous parler de mamie Alice Schlita. Peut-être elle nous écoute, je ne sais pas. Avec mamie Alice, on a toujours une blague entre les différents petits-enfants. On a toujours une blague de savoir qui est le préféré de mamie. Et à chaque fois qu'un des petits-enfants fait un truc sympa pour mamie, alors on écrit dans le groupe WhatsApp des petits-enfants « Ah, je viens de marquer des points et ça va être moi le préféré. » Et mamie répond toujours « Mais enfin, j'ai assez de place dans mon cœur pour tout le monde. » Même si on est sûr qu'elle a quand même un préféré. Mais bon, ça c'est un autre problème. Eh bien, vous savez quoi ? C'est avec ça qu'on va commencer. « Mais enfin, j'ai assez de place dans mon cœur pour tout le monde. » Que les choses soient bien claires, je ne suis pas venu ici pour faire une étude et trouver dans les drames qu'il y a eu le côté de l'amour éternel. Non, je ne le ferai pas parce que je trouverai cela peut-être un petit peu déplacé. Comment est-ce qu'on peut trouver là-bas, dans tous ces drames, au moment du drame, des choses éternelles ? Ce n'est qu'après le drame qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on reconstruit maintenant. C'est ce que j'ai l'habitude de dire toujours par rapport à la Shoah. Je l'ai déjà dit avec l'Ilmot dans les cours qu'on a fait sur la Shoah. La question n'est pas l'Ama, pourquoi il y a eu la Shoah, mais la question est l'Ema. Maintenant qu'il y a eu la Shoah, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien les amis, la question de la Ahava Anitzrit, de l'amour éternel qui lie Akadosh Baruch Hu et son peuple, eh bien, c'est le sujet de Tisha B'Av l'après-midi. Vous savez, à Shabbat, l'après-midi, on se projette déjà dans le Shabbat d'après. Ben oui, puisqu'on va lire à Mincha, eh bien, la paracha de la semaine suivante. Comme si, à partir de Chatzot Hayom, on n'est déjà plus dans la journée, mais on est déjà en préparation du lendemain. Eh bien, Tisha B'Av, et particulièrement cette année où en plus c'est Nitra, où en plus ça a été repoussé, après Chatzot Hayom, on n'a, j'allais dire, plus le droit de s'occuper de destruction, mais nous avons le devoir de nous occuper de réconfort, de Nechama, et donc de parler de ce lien inébranlable d'amour entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Alors allons-y, on va rentrer dans le vif du sujet si vous le permettez. Et j'aurais commencé avec une question très simple. Qu'est-ce que c'est la définition exacte de l'amour ? Mazé l'éhov. Sheela Tova. Ben oui, on le sait tous. Ben, je sais ce que ça veut dire aimer, enfin. Et on fait un clin d'œil, évidemment, les Ilui Nishmato de Daniel Lévy, évidemment, qui nous a donné l'envie d'aimer il y a de cela 20 ans. Les amis, qu'est-ce que c'est la définition de Ahava? Comme des fois c'est plus facile, on va passer par l'inverse. Si on arrive à comprendre l'opposé, alors on arrivera à comprendre ce que c'est Ahava. L'opposé de Ahava, c'est Sina. Sina, Ahava. Je vous ramène au livre de Bereshit. Au livre de Bereshit, au chapitre 29, au verset 30. Là-bas, il est fait mention de l'amour qu'entretient, rien n'est hasard, si Johan a insisté auprès de Marilyn pour cet exposé très émouvant. Ah, c'est pas pour moi, d'accord. Et ben voilà, comme ça c'est réglé. Bekitsour, nous parlons là-bas de l'amour qui unit Yaakov et Léa et Rachel. Nous dit la Torah, Vayavo gam el Rachel, Vayav gam et Rachel, mi Léa. Ce qui veut dire littéralement que Yaakov, après s'être marié avec Léa, il s'est marié une semaine plus tard avec Rachel, et on nous dit, il a aimé Rachel également plus que Léa. Il a aimé Rachel également, ou il a également aimé Rachel, plus que Léa. Plus que Léa, Rabotai. Mais ça veut dire que s'il aime également Rachel plus que Léa, Léa, il l'aime ou pas? Bien sûr que oui. L'amour que Yaakov entretient avec Léa sert même de point de repère par rapport à l'amour qu'il entretient également avec Rachel. Verset suivant. Vayar Hashem kisnoa Léa. Et Hashem a vu que Léa était snoa. Les amis, quand on parle de sina dans la Torah, il ne s'agit en aucun cas de ce que nous, on entretient comme la haine, genre j'ai envie de te bouffer, j'ai envie de te tuer. Sina, dans la Torah, c'est exactement ce qu'on vient de lire. C'est qu'on est aimé moins que ce qu'on devrait être aimé. En d'autres termes, c'est quoi la définition de sina? C'est aimer moins. Donc c'est quoi la ahava, Rabotai? La Ahava, c'est lorsque la relation que j'entretiens avec l'autre est exactement celle que je devrais entretenir avec l'autre. Et évidemment, il y a différentes sortes de Ahavot, de amour au pluriel. Puisque d'un côté, on va nous dire Ve'ahavta et Hashem Elohecha, il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Ve'ahavta le'reacha kamocha, son prochain. Ve'ahavtem et ager, et tu aimeras aussi le converti. Et évidemment, vayehav gam et Rachel milea, l'ahava qu'il y a entre un homme et sa femme. Évidemment que ce ne sont pas les mêmes amours. Bien sûr. Mais si il y a ahava, c'est que le lien que j'entretiens avec l'autre, bien que différent, doit être total. Vous savez, il y a d'autres personnes qui se doivent d'aimer. Ce sont les Kohanim. Les Kohanim, dans quelques heures, dans une heure ou deux, dans les synagogues, on va prier Mincha. Et comme, eh bien, on a jeûné toute la journée, eh bien, on va pouvoir avoir la Birkat Kohanim à Mincha. D'habitude, c'est le matin. Là, ce sera à Mincha. Et juste avant de nous bénir, les Kohanim vont dire une bracha. Ils vont dire, Baruch Atah Hashem, Elokim Echolam, Asher Kideshanu Bikdushato Shel Aharon, Vetzivanu Levarech Et Amo Israel Be'ahava. Que les Kohanim doivent bénir le peuple juif. Ah, Monique, tu dis, aimer c'est donner. C'est ce qu'il y a de plus beau, disait l'autre. Nous dit la bracha des Kohanim qui doivent nous bénir Be'ahava. Et la question est, mais d'où ça vient ça? D'où on sait que les Kohanim doivent bénir le peuple juif Be'ahava? Dans la Torah, il n'y a pas marqué. Dans la Torah, il y a marqué Ko tevarechu et bene Israël. Ainsi, vous bénirez les bene Israël. Amor lahem, et tu leur diras יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. Mais dans le verset, il n'y a pas marqué nulle part qu'il faut aimer les Bnei Israël. Alors d'où on sait que les Kohanim doivent nous bénir Be'ahava ? Eh bien les amis, je vais vous dire la raison. Ne riez pas. C'est Tisha B'Av. Je ne suis pas en train de vous faire des blagues. Même si ça a l'air d'être une blague ce que je vais vous dire. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Léon Tin. Misé Rabbi Léon Tin. Rabbi Léon Tin, Rabbeinu Léon Tin, ce n'est ni plus ni moins, deux secondes, je cherche, hop là, deux secondes, un chargeur, voilà, ça sera beaucoup mieux après. Rabbeinu Léon Tin n'est autre que le maître de Rabbeinu Gershon Me'or Hagola. Rabbeinu Gershon Me'or Hagola, Rabotai, c'est, on va dire, le maître de tous les Ashkenazim. Donc il avait un patron, il avait un rabbin, il s'appelait Rabbeinu Léon Tin. Et Rabbeinu Léon Tin, Rabotai, donne une explication incroyable. Il dit, d'où on sait qu'il faut les varech et amont Israël be'ahava? Parce que c'est marqué dans la Torah, amor lahem, tu leur diras, ve amor be'italkit. Ça veut dire aimer. Amor. Non, c'est pas une blague. C'est vraiment ce qu'il dit. Parce qu'il y a marqué amor, eh bien, ça veut dire que il faut aimer. Ben, c'est pas la première fois qu'on explique des choses avec des langues étrangères. Rashi nous aura déjà expliqué, enfin non, Rashi c'est l'élève de l'élève. Mais Rashi nous explique aussi que comment on sait qu'il y a quatre parchemins à mettre dans les tefilines, parce qu'il y a marqué « Totafot » et « Tout Veput » en africain, ça veut dire « deux et deux ». Donc 2 et 2, ça fait 4, donc il y a 4 parchemins dans les tefilines. Et personne ne s'offusque là-dessus, donc il n'y a pas de raison de s'offusquer sur mon amor lahem. Rabotai, ahava, c'est donc le lien entier qui existe entre une personne et son prochain. Évidemment que, encore une fois, je précise que le lien que j'entretiens avec ma femme n'est pas celui que j'entretiens avec mon prochain. Par contre, le lien que j'entretiens avec ma femme, c'est le lien que j'entretiens avec Akadosh Baruch. Je vais même le dire autrement. Le lien que Dieu entretient avec nous, c'est le lien qu'un homme entretient avec son épouse. Nous explique Rabbi Eliyahu Dividas. Rabbi Eliyahu Dividas, c'est un des élèves du Harizal. C'est Baal HaReshit Chochma, un des grands, grands, grands Mekoubalim qui est enterré dans le vieux cimetière juif de Hebron. Rabbi Eliyahu Dividas nous explique « Mi shelo ta'am ahavat isha, lo ta'am ahavat Hashem. » Celui qui ne connaît pas l'amour de sa femme, avec sa femme, eh bien ne peut pas aimer Akadosh Baruch. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Venez, on va essayer de rentrer dans cette dimension de ahava, le'at le'at. Nous dit le Rambam, Ilchot Teshuvah, dans les lois sur la Teshuvah, au chapitre 10. Davar yadua vebaru, she'ein ahavat akadosh baruch hu nikshered belibo shel adam, ad sheishgeh ba tamid, karaoui, ve'yazov kol shebaolam chutz mimena, kmo sheciva ve'amar, bechol levavecha ubechol nafshecha. Eh oui, c'est le verset dans le livre de Dvarim. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. רבותיי, qu'est-ce que je vous ai dit il y a 5 minutes? Que quand on commence Shabbat à Mincha, on se projette dans la parasha d'après. Rabotai, dans quelques, j'ai dit, heures, on va lire à Mincha. On va lire quoi? On va lire la Torah. Mais on a commencé déjà ce matin à lire la Torah. Et quelle Torah on a lu ce matin? La parasha de Vaetranan. La parasha de Vaetranan, c'est celle qu'on va lire ce Shabbat. On est en plein dedans. Et c'est celle-là où est mentionné le schéma. Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Bechol levavecha, ou bechol nafshecha, ou bechol meodecha. Nous dit le Rambam, c'est bien beau de dire dans la Torah qu'il faut aimer Dieu. Mais comment? Sache que l'amour que tu as de Dieu dépend d'une chose. Ela bedat sheyedaeu. Ve'alpi adat tiyeh ahava. Im meat meat, ve'im arbe arbe. Je le dis en français. Nous dit le Rambam, l'amour avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, ne dépend que d'une chose, c'est à quel point tu le connais. Plus tu connais Dieu, plus tu l'aimes. Moins tu le connais, moins tu l'aimes. Évidemment, nous savons bien que dans la Torah, un des verbes utilisés pour parler de l'amour entre un homme et sa femme, c'est la da'at. Ve'adam yada et ravaishto. Otaï, j'ai l'habitude de dire, je suis avec un groupe de taglites. Et avec un groupe de taglites, vous savez comment ça marche. On a l'habitude, vous savez, les gens de taglites, des jeunes et tout. Tout de suite, au début, j'ai envie de leur dire que je suis marié. Histoire de ne pas faire de... Hein, que les choses soient bien claires dès le départ. Et alors, à chaque fois, je leur dis, ben oui, ça fait 15 ans que je suis marié avec ma femme, je commence à l'aimer. Et tout le monde se moque de moi. Il dit, mais évidemment, quand je me suis marié, j'étais amoureux, mais pas amoureux comme quand tu la connais depuis 15 ans. Puisque quand tu te maries, tu la connais un peu. Et après, tu la connais plus. Donc, tu l'aimes plus. Qui במידת הדעת תהיה מידת האהבה. אם מעט מעט ואם הרבה הרבה, si tu l'aimes un peu, tu aimes, si tu connais un peu, tu aimes un peu, tu connais beaucoup, tu aimes beaucoup. אז ריבונו של עולם, combien on le connaît, c'est ce qui va déterminer combien on l'aime. Mais sauf que maintenant j'inverse la chose. Combien lui il nous connaît, déterminera combien il nous aime. Et combien Akadosh Baruch Hu nous connaît. Combien il nous connaît. Alors vous allez me dire, mais il nous connaît par cœur. Il nous a créés. Il nous connaît par cœur. Ouais, mais des fois, on est capable de le surprendre. Ouais. Bémet, on est capable de le surprendre. Vous savez quand est-ce qu'on est capable de le surprendre? On est capable de le surprendre, par exemple, lorsque dans la Gemara de Tanuro Shel Achnai, vous savez, tous ces rabbins qui se disputent de savoir est-ce que le four, il peut prendre l'impureté, il ne peut pas prendre l'impureté, on ne va pas revenir là-dessus. Les rabbins se disputent, et finalement la Gemara pose la question, et comment Dieu a réagi au moment où tout le monde se disputait en bas pour savoir quelle était la volonté divine? Dieu a dit, « Nitzruni banai, nitzruni banai. » Ce qui veut dire, on pourrait penser, ils m'ont vaincu, mais non, ils m'ont rendu éternel. Netzach. Parce qu'en fait, ils se disputent pourquoi ? Pour savoir comment se connecter à moi autant. Moi, je ne pensais pas à tout ça, entre guillemets. Puisqu'on est en train de jeûner, on n'a pas faim. Donc, je me permets de parler de nourriture. Eh oui, on va parler un peu de nourriture. D'après la halakha, d'après la Torah, pas la halakha, d'après la Torah, quand est-ce que je dois faire le birkat Amazon ? Lorsque je suis rassasié. Ve'achalta, ve'savata, ou ve'rechta. Mais Am Israël, il a tellement envie de s'attacher à Dieu qu'il a déterminé Shiur Zvia. Il a dit non, quand est-ce que tu es rassasié? Quand tu manges kazaït. Je peux t'assurer que quand tu manges kazaït, tu pars rassasié. Mais non, j'ai envie de m'obliger à me connecter à Dieu. Et donc Akadosh Baruch Hu, il dit, ouais, c'est trop cruel, je sais, Nachon. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, attends, moi je leur ai demandé de me faire la bracha que quand ils sont rassasiés, eux, ils se sont imposés un rassasiement. Alors évidemment que Veissa Hashem pana velecha veasem lecha shalom. Bien sûr que je vais leur faire un kiff. Issa Hashem, ça veut dire leur faire un kiff. Abotai. Ahava. On a dit, dépend de notre connaissance. Alors qu'est-ce que je dois aimer? Je dois aimer Akadosh Baruch Hu. Mais je dois aimer également sa Torah. Bien évidemment. Puisque grâce à sa Torah, j'apprends à le connaître. Seulement la Torah, c'est quelque part l'acte de mariage entre lui et nous. Mais il faut aussi également une maison. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné notre maison. Il nous a ramené en Eretz Israël. J'ai l'habitude de dire à mes groupes de taglit, quand on est à un beau point d'observation, comme ça sur le lac de Tibériade, et là je leur dis, ah là là, c'est beau Israël. Ils me disent, ouais. Je dis, vous aimez Israël? Ils disent, ouais. Je leur dis, vous êtes des menteurs. Comment tu peux dire que tu aimes Israël? Israël, c'est pas que la plage de Gordon à Tel Aviv, c'est pas que le Kikar à Natania. Tu ne peux pas dire que tu aimes Israël si tu ne la connais pas. Alors on va se balader pour apprendre à la connaître. Rabotai, le lien qui unit la terre d'Israël au peuple juif, c'est un lien de Khatan Vekala lui aussi. On dit le Rav Kook dans Oroth, au chapitre 1, Eretz Israël est chativa atzmutit kshura bekesher chayim imauma. La terre d'Israël, le lien qui l'unit au peuple juif, c'est le lien qui donne la vie. Un lien qui donne la vie, c'est le lien entre un homme et sa femme. Rabotai, le lien qui donne la vie, nous dit le livre de Yechezkel Hanavi, Atem kruim Adam, ve'ein umot haolam kruim Adam. Vous êtes appelé Adam, vous le peuple juif, et les nations ne sont pas appelées Adam. Incroyable. Nous sommes appelés Adam. Ne traduisez pas homme. Non, parce que homme et femme, ça n'a rien à voir. Étymologiquement, le mot homme et femme ne veulent rien dire. Du moins, ils n'ont aucun lien. De la même façon que le mot man and woman, bah, woman, c'est pas le féminin de man. De la même façon que gever ve'iteta en araméen, c'est deux mots qui ne veulent rien dire. Anthropos dinea, ce sont deux mots qui ne sont pas l'un le masculin de l'autre et le féminin de l'autre. Mais vous avez compris où je veux en venir. Am Israël, il est appelé Adam. Et c'est quoi le féminin de Adam? C'est Adama. La terre d'Israël, c'est mamash le féminin de Am Israël. C'est Khatan ve Zekala. De la même façon, on a dit que nous sommes reliés à Kadosh Baruch Hu et que sa Torah nous permet de le connaître. La terre d'Israël permet de cristalliser notre lien dans la maison. Quand on est à Yad Vashem, Rabotai, vous me parlez de Yad Vashem. Quand on est à Yad Vashem, et d'ailleurs pour répondre à ta question, Johan, qui m'a guidé à Yad Vashem, c'est pas Shlomo, parce qu'il était déjà avec un autre groupe. Et en fait, j'ai demandé à ce que... Enfin, j'ai pas été à Yad Vashem à l'intérieur, parce que je voulais vraiment... J'avais une bonne connexion avec mon groupe, et je voulais vraiment les guider moi à Yad Vashem. Et je suis guide en Israël, je suis guide en Pologne, mais je peux pas guider un groupe éducatif à Yad Vashem parce que je suis pas un guide de Yad Vashem. Donc finalement j'ai changé la réservation et je les ai guidés dehors. On a fait un tour de 3 heures dehors. De toute façon la majorité de mon groupe, ils avaient été au bac bleu blanc, ils avaient déjà été à Yad Vashem, ils avaient été en Pologne. Moi je leur ai dit venez, on va faire le Yad Vashem que personne ne connaît, on va aller dehors. On va voir toutes les choses qu'il y a à voir dehors. Et comme ça, j'ai pu les guider là-bas. Et je vous parle de ça hein, en vous disant qu'on est parti à Yad Vashem. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison très très simple. Pour une raison très simple. Là, on est en train de parler de Khatan Vekala. Shlomo, il a l'habitude, à la fin de Yad Vashem, vous savez, dans la dernière salle de Yad Vashem, où on part après la libération, Shlomo, il a l'habitude de demander, vous savez ce que les gens, ils demandaient dans les camps de transit ? Avant qu'on les renvoie dans les pays où ils voulaient repartir. Il dit tout le temps, regardez, il y a un dé nuptial et une roupa qui est exposée là-bas. Il dit, les gens, ils demandaient à se marier. Les gens, ils demandaient à revenir à la vie. Mais c'est de cela qu'on parle. Vous vous rappelez de ce midrash extraordinaire que quand Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, il soulève la montagne. Kafa alehem har kegigit. Et en fait, c'est quoi ce midrash? C'est que la montagne, Har Sinai, devient la choupa. Seulement, il faut lire le midrash jusqu'au bout. C'est pas le Har Sinai qui est sur nos têtes. Kafa alem har kegigit, c'est le Har Sinai. Le midrash continue et dit que le Har Amoria, il a dit non, 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 c'est moi. Et il est venu se mettre sur le Har Sinai. Bon, évidemment que ça s'est pas passé vraiment dans les faits. C'est un midrash. Mais ça veut dire que la choupa avec Eretz Israël a bien eu lieu à ce moment-là. Donc on a dit qu'il y a l'amour avec Akadosh Baruch Hu et par l'intermédiaire de sa Torah pour apprendre à le connaître. Et il y a la maison. Il y a la maison. Mais ça ne suffit pas. C'est bien beau de dire qu'il faut connaître le Khatan, mais il faut connaître aussi la Kala. Il n'y a pas de raison qu'elle soit laissée pour compte. Et donc cet amourisme que par le prisme... Hop, attendez une seconde, voilà. Que par le prisme du Ham Israël. S'il n'y a pas le prisme du Ham Israël, eh bien il ne peut pas y avoir cet amour de Khatan Vekala. Une seconde, je suis obligé de trouver un support. Voilà, très bien. Yofi. De Khatan Vekala. Alors, c'est quoi l'amour par le prisme du Am Yisrael Rabotai? Vous savez que nous avons une halakha qu'on connaît bien, qui est marquée dans Pirkei Avot. Qui est marquée dans Pirkei Avot, on le connaît très bien. Hop là.
Qu'est-ce qui se passe?
Ça va, on t'a récupéré. Là. On m'a récupéré? Non. Le téléphone s'est déconnecté.
Ouais, pour ça.
Attends. Bon. Ok. Alors, je vois le...